Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. En souhaitant une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Ce matin,
nous
allons continuer cet enseignement sur l'organisation du royaume de Dieu. Et quand on parle de royaume de Dieu, on parle du royaume des cieux et la manifestation du royaume de Dieu sur cette terre. C'est l'Église. On voit que Jésus annonce ces choses dans les évangiles au travers de diverses paraboles, notamment, c'est ce que nous avions vu la dernière fois, cette parabole de la perle de grand prix. L'homme qui trouve une perle et qui va vendre tout ce qu'il a pour eux. Pouvoir acquérir cette perle. C'est l'image de Jésus qui a donné tout ce qu'il avait. Il
ne
pouvait pas donner plus parce qu'il a tout donné pour acquérir cette perle. Et cette perle, bien sûr, c'est l'Église.
Vous
savez, il y a de la puissance, de la gloire, de l'onction. Il y a une protection dans l'Église, au travers de l'Église. C'est pour ça que vraiment je vous exhorte, n'abandonnez pas votre assemblée, c'est-à-dire le fait de se rassembler en tant qu'Église, comme le font certaines personnes malheureusement. Jésus a dit, le royaume est au milieu de vous quand il était sur cette terre.
Et
c'était la manifestation de l'amour du Père, du pardon des péchés, des choses que Jésus a commencé de faire, annoncer la bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs, rendre la vue aux aveugles, c'est-à-dire les gens qui ne comprennent pas les choses. Et ceci dit, Jésus a également guéri des aveugles qui étaient aveugles physiquement. Et renvoyer libres les opprimés. Ça, c'est la manifestation du royaume dans ce monde. Vous savez comme moi que le royaume des ténèbres, c'est le royaume qui régit ce monde, est un royaume de détresse, de souffrance, d'angoisse, d'injustice, de pauvreté, de manque, de maladie, et tout ce qui va avec, et tout le reste. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et ce royaume se manifeste au travers de l'Église. Je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait, j'aime tellement venir à l'Église. C'est là où je reçois l'encouragement. C'est là où je reçois la force. C'est là où je reçois la compréhension et la bénédiction dont j'ai besoin pour me tenir dans ma vie et aussi pour faire ce que le Seigneur attend de moi. Donc le royaume de Dieu, c'est l'Église et c'est la manifestation de l'Église. Parce que la Bible montre qu'il y a deux royaumes sur cette terre. Le royaume des ténèbres, dont je vous ai fait un descriptif, et le royaume de la lumière, c'est-à-dire le royaume de Christ. Il n'y en a pas un troisième. Soit on est dans l'un, soit on est dans l'autre. Et dans le royaume de la lumière, nous sommes appelés à vivre un style de vie différent. Un style de vie en accord avec ce que dit la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu nous dit un certain nombre de choses par rapport à notre façon de vivre, c'est avant tout pour notre protection. Parce qu'à chaque fois qu'on désobéit à quelque chose de cette parole, on se met en danger. Si vous préférez, la parole de Dieu, c'est comme notre ceinture de sécurité. On est protégé quand on obéit à cette parole. Donc cette parole nous est donnée pour notre protection. Et dans cette parole, nous avons aussi des clés. Je rappelle ce que j'ai partagé la fois précédente. Jésus qui dit à Pierre, sur la déclaration que Pierre a faite, ça c'est dans Matthieu, vous pourrez le relire à la maison, dans Matthieu chapitre 16, versets 17 à 19. Quand Pierre dit, mais quand Jésus dit, mais qui dites-vous que je suis? Et Jésus dit, et Pierre dit, pardon, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, sur cette déclaration, pas sur autre chose, sur cette déclaration de Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant qui a été envoyé dans ce monde pour le pardon des péchés. Sur cette déclaration, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Et à nous, il dit, je vous ai donné. Parce que quand Jésus a dit à Pierre, je te donnerai, c'est parce qu'il n'avait pas encore accompli son œuvre. Il y a ce passage aussi dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, où Jésus dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit couleront. Parce qu'il n'avait pas encore accompli son œuvre. Vous savez, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas difficile. Amen.
Amen.
Ce n'est pas une preuve de spiritualité.
Ce
n'est pas parce que je prie en langue, que je crie, que je pleure, que je me roule par terre ou que je tremble que je suis spirituel. Parce que Dieu veut que son Église soit remplie du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes secs. Nous sommes vides. Nous sommes tristes.
Amen.
Et nous sommes absolument inefficaces. La seule chose, écoutez bien, la seule chose qui montre ta spiritualité, c'est ton obéissance à la parole de Dieu. Amen.
Amen.
Parce que être rempli du Saint-Esprit,
c'est
simplement ouvrir son cœur et dire, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas me tenir dans cette vie. Je ne peux pas te servir si je ne suis pas rempli. Et tu as payé le prix, Jésus, pour que je sois rempli. Et
Père,
tu as envoyé le Saint-Esprit pour que je sois rempli.
Voyez,
être rempli du Saint-Esprit, c'est se mettre dans une position où nous recevons quelque chose. Non pas parce qu'on l'a mérité, non pas parce qu'on est meilleur, mais parce que c'est à notre disposition, parce que le Seigneur sait qu'on en a besoin.
Amen.
Être rempli du Saint-Esprit, c'est glorieux, c'est merveilleux. Et l'apôtre Paul le dit d'ailleurs aux Corinthiens. Oui, vous aimez beaucoup les dons spirituels, vous prophétisez, vous parlez en langue. Mais vous êtes des bébés. Parce qu'il y a des luttes et des querelles au milieu de vous, parce que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Parce qu'il y a du désordre dans l'église. Il y a des gens qui vivent dans le péché d'une manière honteuse et personne ne dit rien. Parce que vous prenez la Sainte-Seine en étant ivre. Donc les Corinthiens n'étaient pas très spirituels. Même s'ils parlaient en langue, même s'ils prophétisaient beaucoup, ils n'obéissaient pas vraiment beaucoup à Dieu, amen, ni à sa parole. Donc le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui était dit au futur quand Jésus était sur cette terre. Parce que Jésus n'avait pas encore accompli son œuvre. Maintenant, les clés du royaume de Dieu, et j'y reviens, c'est quelque chose qui a été dit par Jésus au futur. Pour la même raison, Jésus n'avait pas encore accompli son œuvre. Mais aujourd'hui, nous avons les clés du royaume de Dieu, les clés qui ouvrent les portes. Et ça, c'est une chose que nous avons besoin de comprendre. Parce que je vous assure que ça va vraiment révolutionner votre vie de prière. Parce que régulièrement, les enfants de Dieu demandent à Dieu des choses que Dieu a déjà données. Donc s'il est déjà, il l'a déjà donné, il ne peut pas te le donner encore puisque c'est déjà donné. C'est juste à toi d'ouvrir les yeux, les yeux de ton cœur, comprendre que tu ne l'as pas mérité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes et qui ont ce problème et c'est vraiment un obstacle pour leur vie. C'est qu'ils demandent à Dieu des choses qui sont justes, qui sont légitimes, qui sont vraies, qui sont bonnes. Mais ils pensent qu'ils doivent les mériter. Que ce soit par leur spiritualité ou que ce soit par leurs efforts, par la façon de prier avec le petit clic qui va être un déclic et qui va ouvrir les choses. Ça, c'est basé sur la superstition et également sur un esprit religieux. Vous savez, on ne mérite rien. Parce que quand on pense qu'on mérite ou qu'on essaye de mériter, le jour où on reçoit, il y a l'orgueil qui commence à monter. Amen. Il y a des personnes qui étaient dans des situations vraiment difficiles, que ce soit dans leur vie personnelle, dans leurs finances, et qui ont vu la main de Dieu, qui ont eu des promotions, qui ont réussi dans les affaires. Et à ces personnes-là, je vous dis, n'oublie jamais d'où Dieu t'a tiré et donne-lui la gloire et garde ton cœur, parce que je vous assure que l'orgueil précède la chute. Rappelez-vous, et je sens vraiment de le dire parce que c'est pas moi là et c'était même pas prévu, mais je sens vraiment que le Saint-Esprit veut parler. Rappelle-toi du roi Nebuchadnezzar. Il a conquis d'immenses territoires et un jour qu'il était dans son palais et se promenait en disant: c'est par ma gloire, par ma force, par ma grandeur, par ma magnificence que j'en suis arrivé là. Il a été frappé. Il a été frappé. Non pas parce que Dieu voulait le détruire, mais parce que Dieu voulait lui apprendre l'humilité. Il est devenu comme une bête. Il a perdu la raison. Pendant 7 ans, lisez l'histoire, C'est dans le livre de Daniel. Pendant 7 ans, il s'est retrouvé complètement déconnecté de ce qu'il était. Et au bout de 7 ans, il s'est humilié, s'est repenti. Et Dieu l'a restauré. Vous savez, quand on lit des histoires comme ça, ça doit nous interpeller. Parce que pourquoi être mis de côté? Pourquoi devrions-nous être mis de côté d'une manière ou d'une autre? Parce qu'on n'a pas la bonne attitude. Mieux vaut se repentir et revenir dans la bonne attitude. Et pour ceux qui ont été bénis, et pour ceux qui ont réussi, et pour ceux que Dieu a élevés, rappelez-vous, c'est lui qui a fait ces choses. C'est lui qui vous les a données. Et donnez-lui la gloire encore et encore. Ayez du respect pour Dieu. Amen.
Amen.
Donc on parle des clés du royaume.
C'est
la compréhension de l'autorité spirituelle. Parce qu'on ne pouvait pas utiliser le nom de Jésus avant que Jésus ne meure et ne ressuscite. Et utiliser le nom de Jésus, c'est une des clés du royaume. Et nous devons savoir comment l'utiliser. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent au nom de Jésus n'importe comment. Et je vous rappelle que l'Ancien Testament dit: tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. On doit utiliser le nom de Jésus avec beaucoup de respect et de savoir quand et comment nous pouvons l'utiliser. On a parlé de la prière. Vous savez, nous sommes au bénéfice dans le royaume de Dieu d'une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses, et comprendre comment prier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prient beaucoup et qui pensent que par leur prière ils font bouger beaucoup de choses, sauf qu'en réalité il n'y a rien qui bouge du tout. Amen.
Amen.
La question, ce n'est pas de prier pendant 4 heures. Et ceci dit, prier pendant 4 heures efficacement, c'est grandiose. La clé de la prière, c'est une clé importante. La guérison en est une autre. Amen. Vous n'avez pas besoin de craindre, je sens vraiment de le dire. N'ayez pas peur de la maladie. Si tu n'as pas la clé de la guérison, tu peux avoir peur. Il y a de quoi des fois. Quand on n'a pas la clé de la guérison, on peut avoir peur de la maladie, surtout de certaines maladies. Mais à partir du moment où tu as la clé, et tu l'as d'ailleurs, et que tu sais l'utiliser, de quoi est-ce que tu peux avoir peur? N'essaie pas de te convaincre que tu n'as pas peur. Laisse tomber la peur. Je
ne
vais pas revenir trop longuement sur ce que j'avais prêché la fois précédente. La
provision,
la promesse de provision en vue d'accomplir la volonté de Dieu, non pas en vue de satisfaire notre chair. La clé de la provision nous a été donnée. C'est déjà donné. Amen.
Amen.
C'est à toi de l'utiliser. Et comme ça nous a été dit la semaine dernière, parce que je sais que le pasteur Olivier, le Seigneur lui a parlé par rapport à ça.
Et
moi aussi, le Seigneur m'a parlé exactement de la même chose. Commence avec ce que tu as.
tanguza icyo ufise.
Et la provision viendra.
Maze ukuranizwa bizoza.
Mais il ne faut pas commencer n'importe quoi, n'importe comment, bien évidemment.
Ariko ntugatangura uko ariko kose.
Il faut commencer ce que Dieu nous demande de commencer.
Tanguza icyo Imana igusabye gutanguza.
Il y a des choses qui sont vraiment essentielles. Et je sais qu'elles ne sont pas forcément bien comprises. Ce que Dieu veut, quand il le veut, où il le veut, et de la façon dont il le veut. Et ça nous demande de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu et aux autorités spirituelles quand il s'agit de choses spirituelles, familiales quand il s'agit de choses familiales, au niveau de l'école, les professeurs, au niveau du travail, le patron, et ainsi de suite. Et ensuite, la dernière clé, c'est la provision pour toute notre vie spirituelle. Donc maintenant, je voudrais aborder la deuxième partie, parce que c'était important de remettre en place certaines choses sur cette première partie. Et on va parler ensemble du fonctionnement. Le fonctionnement du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu n'est pas un royaume humain qui fonctionne avec les mentalités humaines, mais c'est un royaume spirituel, comme je vous le disais, qui se manifeste au travers de l'Église. Et on va le voir. 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire ensemble du verset 12 au verset 22. Vous savez, le diable combat beaucoup l'Église, parce que quand l'Église est unie, marche dans la soumission à la personne du Seigneur, en parfait accord avec la parole de Dieu, dans la soumission aux autorités spirituelles, quand l'Église fonctionne de cette manière, elle est invincible.
Donc
vous comprenez pourquoi le diable attaque de cette manière. Lisons ensemble. Quand je dis l'Église, je parle des églises d'une manière générale, comprenez-moi bien.
Parce qu'on
entend régulièrement à gauche, à droite, des histoires et des problèmes, et sachez-le, ce sont des attaques du diable.
Et
le diable trouve le moyen de s'introduire au travers de l'ignorance, au travers de la chair des êtres humains, et au travers de la rébellion par rapport à la parole de Dieu. Donc lisons ensemble. Car, verset 12, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 jusqu'au verset 22, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, et vous allez dire avec moi, comme il l'a voulu. Encore.
Comme il l'a voulu.
Je continue. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les plus décents reçoivent le plus d'honneur. Je crois que j'ai été trop loin, enfin je ne sais pas, non, oui, c'est bon, on arrête là. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ici l'apôtre Paul part du corps comme le corps humain,
mais que
ce n'est juste qu'une image, parce que tu n'es pas un œil, ni moi un doigt de pied, c'est une image
comme
Jésus pouvait utiliser parfois des paraboles pour expliquer des vérités spirituelles. Par exemple, Jésus va dire, voilà, il y a un semeur qui sort pour semer. Et il parle de la semence qui est la parole de Dieu, l'image bien sûr. Il parle des différents terrains qui sont une image des choses céleste, des choses spirituelles que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux et que nous ne pouvons pas comprendre avec notre intelligence, mais que nous pouvons comprendre avec notre esprit. Vous savez, il y a des choses que l'on ne comprend pas entièrement et c'est normal parce qu'on ne les voit pas. Une autre image, et je sens vraiment de le partager avec vous ce matin, quand on parle de Jésus, fils de Dieu, Jésus n'est pas le fils de Dieu à la manière des hommes. Amen.
Amen.
Parce que Dieu n'a pas pris une femme
pour
mettre au monde un enfant qui s'appelait Jésus. Mais l'image du Fils nous a été donnée comme cela pour que nous puissions comprendre la relation qui existe entre Dieu, le Père, et Dieu, le Fils. Dieu n'a pas créé Jésus. Dieu n'a pas enfanté Jésus. Mais Dieu existe de toute éternité en trois personnes. Et ça nous a été donné comme Père, Fils et Saint-Esprit parce que ce sont des choses que nous sommes capables de comprendre parce qu'elles existent sur la terre d'une autre manière, même si parfois quand on dit à certaines personnes Dieu est ton Père, il t'aime beaucoup. Il y a des personnes qui ont eu un père horriblement méchant ou irresponsable ou inexistant ou ils ont été abandonnés. Alors quand on te dit Dieu est ton père, alors ils se disent ok, on se verra une autre fois. Parce que normalement un père doit aimer passionnément ses enfants. Passionnément. Parce que les enfants sont sous sa protection. Ils sont sous sa responsabilité. Qu'ils soient petits ou qu'ils soient plus grands. Il doit exister une relation entre le Père et ses enfants. Et c'est pour ça qu'on nous a montré Dieu le Père, Jésus le Fils, parce qu'il n'y a pas de relation semblable. Amen.
Amen.
Il y a une relation extraordinaire entre le Père et le Fils. Donc on parle du corps et on revient au corps. Donc ce qu'il faut, c'est un petit peu retirer de notre tête. Parce que des fois, ça peut être peut-être un peu embarrassant. Est-ce que je suis l'estomac ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste une image pour nous montrer que chacun a son rôle, chacun a sa place. Vous savez, il existe une relation entre le Père et le Fils. Jésus est la tête de l'Église. Et quand on parle l'Église, on parle le rassemblement de tous les croyants qui sont nés de nouveau. Mais comme tous les chrétiens de la terre entière ne peuvent pas se rassembler en même temps et au même endroit, et même s'ils le pouvaient, ça serait quand même un problème de logistique, un problème de langue, etc., etc. Dieu a voulu les églises locales. L'église locale est la volonté de Dieu tant que Jésus n'est pas revenu. Pourquoi? Parce que quand Jésus va revenir, il va revenir pour enlever l'église. Donc quand l'église sera enlevée, il n'y aura plus d'église. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, il y a l'église et nous sommes membres. Parce que si nous voulons voir le fonctionnement du royaume de Dieu, nous devons comprendre que Dieu a mis en place une structure, si je peux me permettre de le dire ainsi, parce que c'est bien plus qu'une structure, pour que son royaume puisse se manifester. Amen.
Amen.
Il faut comprendre que il y a une spécificité des membres et que chacun est utile à quelque chose. Maintenant, nous avons besoin de comprendre que d'abord Dieu a une volonté spécifique pour chacun de nous et que entre le moment où nous sommes nés de nouveau et le moment où nous allons être enlevés au ciel, où nous allons mourir, il y a pour la vie de chaque personne des phases, des étapes. Et ni vous ni moi ne pouvons décider, voilà, je vais faire ci, je vais être ça, je vais être comme ci, je vais être comme ça. Parce que quand on a ce genre d'idée, on est comme les petits-enfants. Les petits-enfants, quand vous leur demandez, ils ont 7 ans, 8 ans. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Et il y en a un qui va te dire, je vais être policier. L'autre, il va te dire, je vais être maîtresse. L'autre va te dire, je vais être docteur. Parce que c'est à peu près les seules professions dont on parle quand on va à l'école, voyez. Mais nous avons tous une démarche à faire. Et de poser la question à Dieu. Seigneur, qui suis-je dans ton royaume? Parce que ce n'est pas un royaume qui est basé sur l'ambition personnelle. Ce n'est pas un royaume qui est basé sur les intérêts personnels. C'est un royaume qui est basé sur Jésus. Parce que je vous rappelle que Jésus a tout payé, il a tout accompli. Il est la tête, il est le chef suprême de l'Église. C'est lui seul qui décide ce qu'il va faire avec nous. Amen. Et qui que nous soyons, quoi que nous fassions, une chose est importante, que nous soyons à notre place, en train de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Parce qu'il y a des personnes qui ont de l'ambition et désir avancer, c'est une bonne chose. Mais par rapport à l'avancement dans lequel tu voudrais être et que tu n'es pas encore, et si tu n'y es pas encore, c'est qu'il y a une raison. Et par rapport à ce que tu désires, est-ce que Dieu ne veut pas pour toi? S'il ne le veut pas, c'est qu'il y a une raison. Amen.
Amen.
Il y a des personnes qui se disent parfois, moi je voudrais être comme Reinhard Bonnke.
Et
tu regardes ta vie et tu dis, je n'y suis pas et je n'y serai certainement d'ailleurs jamais. Et il y a une frustration qui vient dans le cœur de certaines personnes parce qu'ils veulent. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce que Dieu veut.
Et
vous allez me dire, mais alors, vraiment, Dieu n'est pas gentil là. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Je dois vous dire la vérité. C'est qu'il y a un prix à payer. Et si Dieu ne te veut pas là, c'est parce qu'il sait que tu n'es pas capable de payer le prix. Et ne dis pas, mais si, je te suivrai jusqu'en prison, jusqu'à la mort. Parce que tu risques d'être le prochain à renier Jésus. Il y a un prix à payer. Vous savez, dans la vie, chaque chose a un prix. Si tu veux ça, tu vas payer un prix. Je vous donne un exemple. Tu veux être champion olympique. Il y a un prix à payer. Bien sûr, il y a un talent à avoir, on est bien d'accord. Mais il y a un prix à payer.
Ce
n'est pas seulement le talent. C'est le talent plus le prix. C'est le don plus le prix. Et Jésus dit, mais si quelqu'un veut construire une tour, qu'il s'assoit d'abord et qu'il calcule le prix pour voir s'il est capable de le payer. Tu veux un grand ministère, tu veux être quelqu'un qui brille, qui est connu, que tout le monde appelle serviteur.
Et ça, c'est juste
l'aspect extérieur qui n'a d'ailleurs pas beaucoup de valeur. N'est-ce pas? Les titres. Ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Mais sache que derrière chaque appel, il y a un prix. Et si Dieu ne t'a pas appelé à ces choses, c'est juste parce qu'il sait que tu n'es pas capable d'en payer le prix, même si tu penses le contraire. Quand on veut être sportif de grand niveau, il y a un prix à payer. Quand on veut être un intellectuel, il y a un prix à payer, c'est le prix des études. Parce qu'apprendre la table de multiplication par Dieu, par deux, c'est pas un prix à payer, c'est pas quelque chose de difficile. Quoi que nous voulions, quelle que soit la chose, bonne ou mauvaise d'ailleurs, que nous voulions, il y a un prix à payer. Alors, si tu as des mauvaises idées, pose-toi la question. Le prix que je dois payer pour obtenir cette chose en vaut-il la peine? Donc, nous sommes membres du corps. Et quand on regarde la vie de Jésus, on voit que Jésus avait avec lui les 12 apôtres, puis les 70 disciples, et chacun avait un rôle, chacun avait sa place pour soutenir l'œuvre de Dieu et le ministère de Jésus. Ça, c'est un principe biblique. Une seule personne ne peut pas tout faire. Même Jésus ne pouvait pas tout faire. Ou s'il avait, tout fait, il aurait fait moins de choses. On voit l'apôtre Paul. Il avait une équipe d'une douzaine de personnes, dont Luc, Démas, différentes personnes qui étaient là. Barnabas, etc. Ils étaient ensemble, ils étaient à plusieurs. Et les uns s'occupaient d'une chose et les autres s'occupaient d'autre chose. Vous savez, avant d'arriver au point de notre appel, il y a des phases. Il y a des étapes de croissance par lesquelles nous devons passer. Et si Dieu n'a pas prévu que vous deveniez enseignant, pasteur, évangéliste, soyez tout simplement vous-même et soyez une bénédiction pour le corps de Christ. Soyez une bénédiction là où vous êtes. Et tout ce que vous avez, mettez-le à la disposition du royaume de Dieu. Amen.
Amen.
Donc ce qui fait obstacle à la cohésion du corps, souvent c'est la chair. Chaque personne a un travail à faire dans sa vie par rapport à sa propre chair. Parce que sinon, ça va abîmer. Ça va détruire l'œuvre de Dieu. Vous savez, nous avons un ennemi qui s'appelle le diable. Et cet ennemi est intelligent. Et il est très méchant. Et il veut exploiter la chair, la chair des hommes afin de détruire l'Église ou de la limiter et d'empêcher les choses que Dieu veut faire. Lisons ensemble dans Matthieu, chapitre 12, verset 22. Matthieu, chapitre 12, verset 22.
Matthieu, chapitre 12, verset 22.
Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Voilà, tu vas lire verset 25 jusqu'au verset 26.
Duhere ku mirongo 25 na 26. Amenye ibyo biyumvira arababwira atugami bwose iyo bwitandukanije ubwabwo burahona igisagara cyose n'umujyango wose iyo byitandukanije ntibirama na satani yosenda satani iyo bayitandukanije ubwiwe none ubwami bwiwe bworama gute.
Ce qui affaiblit un royaume, c'est le manque d'unité, le manque de cohésion et le manque de, comment dirais-je, de respect des directives et de l'autorité. Ce que l'on peut appeler en gros la rébellion. Hier, j'enseignais à l'Institut biblique et dans l'enseignement, je parlais d'obéissance. Vous savez, l'obéissance, ce n'est pas faire ce que l'on nous demande parce qu'on est d'accord. Amen. Ça, ce n'est pas l'obéissance. On peut demander à quelqu'un de faire une chose quelconque. Si cette personne est d'accord, elle est d'accord. L'obéissance va bien au-delà. Et le Seigneur a besoin de notre obéissance. Mais notre obéissance est basée sur notre liberté. C'est exactement ce qui s'est passé depuis la création de l'homme avec Adam et Ève. Dieu leur a donné le choix. Ne touche pas à ce fruit. Et ils pouvaient le faire ou ne pas le faire. Et les choses n'ont jamais changé. Dieu a besoin de ton obéissance. Maintenant, tu es libre de dire oui ou de dire non. Mais quand on obéit seulement quand ça nous arrange, ce n'est pas de l'obéissance. L'obéissance, c'est de faire exactement ce que Dieu nous demande, même quand on n'en a pas envie. Vous allez me dire, mais est-il possible de ne pas avoir envie de faire ce que Dieu nous demande? Mais bien sûr, ça peut arriver à tout le monde et à n'importe qui. Dieu te demande de faire une chose et puis tu n'as pas le temps et puis tu es fatigué et puis tout simplement tu ne te sens pas bien, alors tu n'as pas envie. Je me rappelle d'une histoire d'une sœur. Dieu lui avait dit spécifiquement, donne telle chose à telle personne. Et la sœur a dit non. Elle a dit, ben non Seigneur, je
ne
peux pas lui donner ça parce qu'elle n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'elle en savait? Vous savez, on tire un peu trop vite des conclusions. On pense que quelqu'un n'a pas besoin de quelque chose parce qu'on pense nous-mêmes. Et parfois, il faut arrêter de penser. Je sens vraiment de redonner cette illustration parce que je l'aime beaucoup. Il y avait un serviteur de Dieu qui avait été invité à prêcher dans une église aux États-Unis. Et il connaissait pas bien le pasteur, et quand il arrive là, il est accueilli, etc. Et il voit dehors une magnifique voiture qui appartient au pasteur en question. Et le Seigneur parle à ce serviteur de Dieu. Et il lui dit, donne-lui les $100 que tu as dans ta poche. Pourquoi les $100? Parce que c'était le seul argent qu'il avait. Et cet homme a dit, mais il n'en a pas besoin. Et le Seigneur n'a rien rajouté. Vous savez, Dieu ne négocie pas avec nous. Il n'essaye jamais de nous convaincre coûte que coûte et de nous pousser à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et ce serviteur de Dieu, il aimait beaucoup le Seigneur. Et il a dit, mais il n'en a pas besoin. Mais comme Pierre l'a dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mais comme tu me l'as dit, je vais le faire. Et il prend son argent, son seul billet, il donne au pasteur. Et le pasteur se met à pleurer. Il dit, écoute, tu sais, quelqu'un vient de me donner cette voiture. Et je ne peux pas l'utiliser parce que je n'avais même pas d'argent pour mettre de l'essence dedans. Arrêtez de penser. De penser que si, que ça, en relation avec les apparences.
Amen.
Le royaume de Dieu, comme tout royaume, s'il veut être puissant et efficace, il doit fonctionner dans l'unité et dans l'harmonie. Premièrement, l'Église n'est pas une démocratie où chacun fait ce qu'il veut. Même, je vous assure, frères et sœurs, même nous les pasteurs, on ne fait pas ce qu'on veut. Je vous dis la vérité. on fait ce que Dieu nous dit. Quand ça nous arrange, et même parfois, quand ça ne nous arrange pas. C'est vrai, vous savez, ce principe est vrai pour tout le monde. Ce n'est pas « obéissez-nous, nous sommes en charge ».
Mais
moi, je dirais la chose suivante. Obéissez comme nous, nous obéissons. Et là, je peux le dire avec assurance et avec puissance. Amen.
Amen.
L'Église n'est pas une démocratie où chacun fait ce qu'il veut ou qu'il pense que, parce que sinon, ça va être une catastrophe et un désordre complet. Ce qui est important, c'est de faire ce à quoi nous servons. Même si tu es entre guillemets, parce que j'ai déjà entendu cette prédication et bon, ça va, c'est une bonne idée, même si tu es comme le petit âne sur lequel Jésus s'est assis, mais qu'il en soit ainsi, parce que c'est un honneur. Amen.
Amen.
Faisons ce que nous devons faire, comme nous devons le faire, comme on nous le demande. Parce que je sais que vraiment qu'il est important que chacun travaille dans son caractère par rapport à cela. Parce que chacun d'entre nous, ça nous arrive de nous lamenter parce qu'on demande à quelqu'un de faire une chose et il le fait à sa façon. Je vous donne l'exemple habituel des domestiques. Demande à ton domestique de nettoyer la maison. Si tu n'es pas à côté de lui en train de regarder ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nettoyer le centre de la pièce.
Goussa.
Je ne sais pas pourquoi, ils savent seulement baisser la tête, mais ils ne sont pas capables de lever un peu les yeux et de voir que là il y a plein de toiles d'araignée, que sous le tapis il y a beaucoup de miettes. Donc on se lamente souvent, ne serait-ce qu'à la maison, comme je vous le dis, ou parfois avec nos enfants. Moi, je ne me lamente pas, mes enfants sont grands, mais ils n'ont pas toujours été grands. Quand ils ont 5 ans, 6 ans, tu lui dis, va te laver les dents. Et si tu vois l'enfant faire juste, tu as de la chance. Il a oublié qu'il y a des dents derrière. Et que tes dents, il y a le côté pile et le côté face. Si on a ce problème dans la vie de tous les jours, je parle des choses qui sont visibles, qui sont palpables, qui sont compréhensibles, des choses qui nous fatiguent et qui parfois nous découragent. Il faut savoir que cette réalité existe tout autant dans le domaine des choses spirituelles. Faire ce que Dieu veut que nous fassions, de la façon dont nous devons le faire, quand nous devons le faire, où nous devons le faire, et qu'on arrête d'avoir nos idées personnelles. Parce que nous sommes dans une guerre. Et si nous ne sommes pas vraiment soumis à la volonté de Dieu et au principe que Dieu a établi pour que son royaume fonctionne, je vous assure que son royaume ne fonctionnera pas. Le royaume de Dieu ne peut fonctionner que si on obéit. Vous savez, il y a eu des siècles d'obscurantisme. Après la résurrection de Jésus, il y a eu les débuts de l'Église. Et après, il y a eu ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Et les Américains, ils appellent ça Dark Age. Je pense un truc du genre l'âge sombre.
Abanyamerika bavyita ko ari byari bihe
by'umwijima. Le royaume de Dieu ne fonctionnait plus.
Ubwami bw'Imana ntibwakora.
On était seulement dans une religion.
Hari dini.
Il y a eu de temps en temps des étincelles et parfois un peu plus que des étincelles.
Gasanga rimwe rimara kantu menga agaco gatoto.
Il y a eu des époques où tout avait été perdu.
Ariko harabaye igihe
les gens n'étaient plus sauvés, ils étaient seulement religieux. Pendant combien de siècles le baptême du Saint-Esprit a-t-il été perdu? Et je remercie Dieu parce qu'on l'a retrouvé. Amen.
Dieu,
dans sa grâce, il l'a ramené. Il nous l'a rendu et nous pouvons vivre
en parlant en langue.
Amen. Il faut comprendre une chose. Le royaume de Dieu, l'Église, ce n'est pas quelque chose de magique. Rappelez-vous du peuple d'Israël. Et je ne dis pas que nous sommes dans cette situation parce que nous ne le sommes pas. Mais il y avait un énorme mensonge du diable qui les a non seulement maintenu dans le péché, mais entraîné dans la chute. Vous savez, il y avait l'idolâtrie. Et encore et toujours, le peuple d'Israël vivait dans le péché. Et Dieu envoyait des prophètes en leur disant, mais repentez-vous, sinon vous allez être détruits. Repentez-vous, sinon vous allez partir en captivité. Pendant des siècles, Dieu a dit, repentez-vous, 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 repentez-vous. Le problème, c'est qu'ils ont endurci leur cœur. Ils ont endurci leur cœur en se disant, mais nous, de toute façon, on est le peuple de Dieu. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous avons des promesses. On ne partira jamais en captivité. Ce pays nous appartient. Et qu'est-ce qui s'est produit? Ils sont partis en captivité. Ils ont été détruits. Un grand nombre sont morts parce qu'ils avaient endurci leur cœur. Amen.
Amen.
Amen. Vous savez, la Bible nous montre que Dieu a des promesses, que Dieu a une volonté, mais que Dieu aussi a des exigences. Et nous devons nous y conformer. Parce que si nous ne nous y conformons pas, ça ne pourra pas fonctionner. Si Dieu a des exigences, ce n'est pas pour nous ennuyer. C'est pour que les choses fonctionnent. D'autant plus que nous sommes dans une guerre spirituelle.
Amen.
Et dans une guerre, on ne peut pas blaguer. Dans une guerre, on ne peut pas se laisser aller. Dans une guerre, on ne peut pas négliger les choses qui sont importantes. Lisons ensemble dans 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée chapitre 2 verset 3.
Umurongo wa gatatu ngo ufatanye nanje kwihanganira imibabaro nkuko bikwiye umusoda mwiza wa Kristo Yesu. Nta musoda yikwegera mu vyubu bugingo ngo azabihimbare uwa mwandikiye ubusoda.
Nous sommes dans une génération où on entend tout le temps la grâce, la bénédiction, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas, vraiment fausses, mais qui ne sont ni l'essence ni le but de notre vie sur cette terre. Parce que Dieu nous aime, il veut nous bénir, il veut qu'on soit dans la paix, etc. Mais ce n'est pas la totalité et la l'entièreté du message.
Amen.
L'entièreté du message, c'est que nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous avons un ennemi qui n'aura jamais pitié de nous. Vous savez, quand parfois il y a des conflits entre les gens, on va chercher un médiateur, que ce soit entre des personnes, dans les familles, etc. On cherche quelqu'un pour arranger les conflits. Et parfois, il y a le méchant en question qui a vraiment fait beaucoup de mal, qui a volé les propriétés de l'autre, pour vous donner des exemples. Ou qui a pris de l'argent ou qui a fait je ne sais quoi. Et puis le conseil de famille ou le négociateur réussit quand même à changer les choses. Et le méchant qui avait vraiment beaucoup de haine va regretter le mal qu'il est en train de faire et va restituer. Écoute bien, le diable ne regrettera jamais le mal qu'il essaye de te faire. Le diable n'aura jamais pitié de toi. Et tant que tu seras sur cette terre, tant que tu seras sur cette terre, tu devras passer par la souffrance. Et cette souffrance ne vient pas de Dieu. Souffre comme un bon, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. On parle de soldats. Et si on parle de soldats, on parle d'armée. C'est le psaume, je pense, 68 ou 69 qui dit que nous sommes l'armée de l'Éternel. Et une armée doit fonctionner selon l'ordre établi et dans la cohésion. Moi, je sais que quand l'armée défile, ici c'est le 1er juillet, n'est-ce pas? En France, c'est le 14 juillet. Dans d'autres pays, c'est à d'autres dates. Alors, c'est vraiment, je vous assure, c'est extrêmement impressionnant. Parce que tout le monde ne fait pas la même taille. Il y a des petits, il y a des moyens, il y a des grands, il y a des plus gros, il y a des plus maigres. Mais quand ils défilent, on va essayer, on n'est pas vraiment doué, mais enfin on va essayer. Ils commencent tous avec le même pied. Parce que des fois même là, il y a un problème. On dit on commence avec le pied. C'est quoi? C'est gauche ou droite avec l'armée? Droite. Droite, gauche, droite, gauche, c'est ça? Non? Gauche, gauche. Alors, c'est gauche. Commence par le pied gauche. Alors, les chrétiens, ils sont comme ça. Pourquoi on doit commencer avec le pied gauche? On doit commencer avec le pied droit. Parce que la Bible dit que Jésus est à la droite du Père. Donc, on doit commencer avec le pied droit, pas avec le pied gauche. Les gens qui se prennent pour des spirituels qui ont des arguments comme ça. Et le sergent-chef a dit, on commence par le pied gauche. Alors il y a le petit, le grand, le gros, le maigre. Alors, vas-y. Pose le pied exactement au même endroit que moi, tu vois. Allez. Voilà. Encore. On est en train de s'entraîner, hein. Et c'est très difficile. Parce que si on le fait sans vraiment être bien coordonné, voilà ce qui va se passer. On y va. Gauche. 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 Droite. Gauche. Bah, t'es où là? Parce qu'elle a fait des petits pas. Et moi j'en ai fait des grands. Dans l'armée,
mugisoda.
Moi, je, ça vraiment, j'avais pas remarqué ça avant. Ils font les pas de la même façon. Ils marchent à la même vitesse. Et il y a même parfois des armées qui défilent avec des pas compliqués. Vous savez, là, ils lèvent la jambe très haut. Bon, je ne vais pas le faire. Mais ils lèvent la jambe très haut. Et en plus, une chose importante aussi, ils tournent la tête du même côté. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Même si ça doit te faire souffrir un peu. Amen.
Amen.
C'est pour le Seigneur. C'est pour sa gloire.
C'est
pour l'avancement de son royaume. Parce que son royaume est visible par les gens du monde. Pensez que les gens du monde ne nous voient pas. Moi, vraiment, le Seigneur m'a reprise récemment. Enfin, c'est mon cœur qui m'a repris. Parce que des fois, quand je conduis, j'ai tendance à dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Bouge-toi, je suis pressée. Ou de faire des comme ça. Et Seigneur, dis, mais tu sais, les gens du monde, ils te voient même quand tu es dans ta voiture. Ok, je vais changer. Les gens du monde nous regardent et ils attendent de nous que nous ayons une autre qualité de vie que la leur. Ils attendent de nous non pas la perfection mais que nous les guidions vers le Seigneur. Amen.
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 Et ça, c'est notre responsabilité. On va finir avec un dernier verset dans Jean chapitre 17. J'ai été un peu long, mais on va finir avec ça. Jean chapitre 17 verset 11 jusqu'au verset 13. Jean chapitre 17 verset 11 à 13. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Amen.
Amen.
Ici on voit une chose, c'est que Jésus a déjà prié pour l'unité.
Amen.
Amen. C'est à nous de décider et de choisir. Je marche dans le rang. Je fais ce qu'il faut faire. Parce que ce que je fais, c'est pour le Seigneur que je le fais. Ce n'est pas pour être vu. Ce n'est pas pour être apprécié. Ce n'est pas pour faire plaisir aux hommes. Parce que je vous assure que quand on essaye seulement de faire plaisir aux hommes, on est les gens les plus malheureux du monde. Mais j'ai décidé de fonctionner en tant que membre du corps, en tant que personne qui fait partie du royaume, dans l'unité, et d'être un avec mes frères et sœurs. C'est très élevé, hein? Comme Dieu le Père est un avec Jésus. Lui en nous, et nous en lui. Et ça, je vous assure, frères et sœurs, que c'est un énorme sacrifice. C'est un sacrifice. Parce que pour être parfaitement uni avec quelqu'un, il y a des choses que tu vas devoir pardonner. Il y a des choses que tu vas devoir laisser tomber. Il y a des choses sur lesquelles on ne parle pas de faire du compromis, mais lesquelles on doit passer pour que nous puissions véritablement fonctionner pour la gloire de Dieu. Sinon, nous ne valons pas mieux que les païens.
Œil
pour œil, dent pour dent, je te mets une claque, tu me mets une claque, je te rends un coup de pied pour être sûr que tu ne recommences pas. Ça n'a rien à voir avec le royaume. Le royaume de Dieu marche avec le pardon. Le royaume de Dieu marche avec l'unité. La cohésion. La soumission. Parce que c'est là que nous allons voir la gloire de Dieu. Et je finis avec ce verset de Hébreux 5. On va lire ensemble Hébreux 5 et on va finir avec ce verset ce matin. Hébreux 5, laissez-moi le retrouver. Hébreux 5, verset 8. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a.
Naho yari umwana yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe.
Tant que nous serons sur cette terre,
tukiri kuri ino si,
la souffrance
mibabaro
fera partie de notre vie.
Izokwamiriho.
Amen.
Amen.
Mais que nous ne souffrions pas à cause de nos péchés.
Que nous
ne souffrions pas à cause de nos mauvais choix, nos mauvaises décisions. Mais que nous souffrions parce que nous aimons Dieu. Que nous voulons lui plaire. Lui obéir. Et marcher dans ce qu'il a prévu pour nous.
Amen.
Amen.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.